Polysécur, épisode spécial. Je suis accompagné d'Alexandre. Comment vas-tu?
Bien, bien. Je vais super bien pour cette nouvelle année 2024. On est chaud bouillon.
Oh oui, puis ça fait déjà un certain temps qu'on n'avait pas enregistré. Fait que c'est très plaisant de justement repartager le micro ensemble. Aujourd'hui, on va regarder j'ai le terme anglais, le tabletop, là, mais les exercices réels de gestion de crise, justement, dans lesquels on va tester pour vrai les différents éléments, puis justement de pouvoir permettre à aller plus loin, puis à s'assurer que notre plan de résilience il est robuste. Fait que je vais te laisser présenter le sujet parce qu'il y a des balises, puis des définitions très importantes à avoir, justement, qu'on parle tous de la même chose. Fait que je te laisse pisser avec ça.
Merci. Alors, les exercices hein, ou les simulations, exercices de table ou simulations, hein, on confond souvent les deux. Alors, déjà, un exercice de table, imaginez des personnes qui sont autour de la table qui vont évaluer des procédures sous la forme d'exercices. Et là, dans ce cas-là, on va simplement dérouler des procédures, mettre les personnes tout simplement en situation. Donc ça reste assez simple, c'est assez facile, un exercice de table, on peut le faire très rapidement, on peut complexifier un exercice de table, mais généralement, on fait quelque chose de relativement simple. Versus une simulation où là, dans ce cadre-là, on va aller beaucoup plus large, on va amener beaucoup plus d'acteurs, de différents services, ça peut être différentes entreprises, et on voit souvent des simulations de sécurité civile où on va imaginer, par exemple, un avion qui s'est scratché sur un aéroport, et là, on va avoir la police, les pompiers, toutes ces personnes-là qui vont intervenir. Donc là, on est vraiment sur une simulation très, très proche de la réalité où on va mettre de la fumée, des choses comme ça, on va mettre des faux morts par terre, des faux blessés, etc. On met beaucoup de sang là-dedans. C'est vraiment parfois le pied, on s'amuse énormément. Alors que l'exercice de table, hein, on est quand même vachement moins soft. Il y a déjà beaucoup moins de morts, il y a beaucoup moins de d'hémoglobine et on va être beaucoup plus dans quelque chose de vérification des procédures plus papier. Dans les deux cas, là, c'est quelque chose de vraiment cool à faire et on s'amuse énormément. Vous l'aurez compris, simulation, ça prend quand même du temps, il y a beaucoup d'enjeux de réalité. L'exercice de table, on est plus sur quelque chose de convivial, familial, gentillet, etc. On peut quand même pousser un petit peu plus loin l'exercice de table. Et ce que l'on fait, nous, c'est, généralement, c'est des mises en situation, des micro-mises en situation. On se rapproche un petit peu de la simulation en mettant des cas réels, mais dans un mode plus tour de table, convivial, sécuritaire, etc. Un peu moins réaliste, un peu moins d'hémoglobine. Donc ça, ces mises en situation permettent vraiment, sur des courts termes, de pouvoir faire en sorte que les parties prenantes, les intervenants, soient dans cet environnement et puis qu'ils réfléchissent énormément. Alors maintenant, quand est-ce qu'on va passer d'un exercice de table à une simulation? Ça va être une question de maturité. Il est clair que si vous avez créé un plan de reprise informatique, vous n'avez peut-être pas joué votre plan de reprise informatique d'un seul coup comme ça parce que ça vous prend. Il va falloir peut-être faire des petits tests d'abord, de prendre des procédures, de regarder l'enchaînement. Est-ce que les procédures sont bien écrites? Est-ce qu'il n'y a pas des aberrations? Est-ce qu'il ne manque pas carrément des commandes qui devraient être là? Donc, sur tout ce qui est exercice de table, on est sur une maturité plutôt basse. Plus on va s'améliorer, plus on va monter en fait dans une complexité. Aller beaucoup plus en profondeur et jouer sur plus de longueur et d'importance. Donc, exercice de table, on fait ça simple. Exercice simulation, on fait ça compliqué. Donc, une question de maturité derrière.
Pareil sur la notion. C'est une question de coût aussi, là, parce que quand on met de l'hémoglobine partout, ça a des coûts, ça, c'est ce genre de choses-là. Fait qu'il y a aussi une différence de coût qui est associée à ce genre de choses-là.
Ah oui, tout à fait. Tiens, puisque tu embarques sur l'histoire des coûts, en effet, un exercice de table, ça va prendre peut-être 1 heure à 3 heures. Et puis là, c'est comme une réunion. C'est une réunion beaucoup plus utile que certaines réunions que j'ai pu déjà vivre où on s'emmerde copieusement. Donc là, il y a réellement un intérêt. Donc, il y a un retour sur investissement qui n'est pas toujours dans toutes les réunions. Maintenant, sur en effet les simulations de crise, où on va faire intervenir pas mal de monde, on peut faire intervenir des acteurs, des journalistes, des choses comme ça. Là, les dollars vont commencer à sérieusement s'amonceler. Et puis, le délai de préparation aussi est assez important. Pour une simulation de crise en cyberattaque, où on regroupe en fait le board de gestion de crise, où on crée des vraies pièces, des vidéos, où il peut y avoir des appels téléphoniques. Généralement, on se limite là aussi sur 3 heures parce que nos dirigeants ne sont pas toujours disponibles. Et ben, il faut compter à peu près un coût de 20 000 à 30 000 dollars par rapport à ça. Donc, c'est un coût déjà conséquent et c'est à peu près plus d'une centaine d'heures de travail pour pouvoir préparer une simulation qui tienne vraiment, vraiment là. Quand on va passer sur des simulations de type crise avec, par exemple, un avion qui s'écroule, là, ça va coûter beaucoup plus cher et ça va être beaucoup plus complexe à monter et à mettre en place. Donc, beaucoup plus d'heures par rapport à ça, beaucoup plus d'intervenants extérieurs. On le fait là actuellement chez un client où on a des interventions externes. Et rien que pour la planification de l'exercice, là, ça fait déjà 3 ou 4 mois qu'on est dessus et qu'on repart. Donc, complexité par rapport à ça. Donc, le coût, oui, c'est quelque chose qui va vraiment jouer là-dedans. Notion donc avantage pour la simulation par rapport en fait à l'exercice de table. L'exercice de table, donc comme je le disais, on est plus sur une compréhension des plans, sur une identification des lacunes, une formation initiale, donc on est vraiment très très au départ. Alors que l'avantage pour la simulation, on va rentrer beaucoup plus dans le réalisme. Quand on parlait d'hémoglobine et puis des dollars qui vont couler à côté, c'est beaucoup plus dans le réalisme quand on doit faire intervenir des personnes parce qu'il y a des personnes qui sont blessées, là aussi ça va jouer. On va rentrer dans le cadre de l'indisponibilité, ce genre de choses. Ça va permettre aussi une simulation de prendre des décisions réelles. Donc on est vraiment sur un processus complet, on a un événement qui a démarré, il y a des actions qui se passent, il faut prendre des actions par rapport à ça, il faut prendre des décisions et avec ces décisions, on a tout un arbre de décisions derrière et en fonction de la décision, nos scénarios de crise va changer. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il peut y avoir des bonnes décisions qui nous amènent sur la bonne track ou des mauvaises décisions dans lesquelles on s'engouffre pour mettre un bordel sans nom. Et puis, en même temps, ça va nous permettre de révéler quelques faiblesses. Dans une gestion de crise, on a un tour de table et principalement dans une gestion de crise dans les entreprises, généralement publiques, puis dans les privés aussi, dans beaucoup d'entreprises privées, on est sur une organisation de crise hiérarchique. C'est-à-dire que le PDG est généralement président de la gestion de crise. Le directeur TI est responsable de tout ce qui est la partie TI, etc. Et on s'aperçoit que dans une gestion de crise, on est en stress un petit peu quand même. C'est le but de la simulation, c'est de les pousser dans le retranchement. Mais on s'aperçoit que si vous avez un très très bon directeur RH ou finance ou TI pendant un temps de paix, en temps de crise, c'est peut-être plus du tout la même chose. Ils ne supportent peut-être pas le stress, ils ne supportent pas la pression, etc. Et donc, on peut s'apercevoir dans les comités de crise que vous avez certains directeurs qui ont tendance à s'écrouler.
Oui, et puis c'est très important de le tester parce que les gens sous pression changent pour le bon ou le moins bon. Et j'en ai vu dans certains contextes où ils deviennent contre-productifs en gestion de crise en faisant ce genre de choses-là. Donc, il faut avoir faut être capable de le mesurer d'avance, de savoir, puis ensuite de prendre des actions correctives dans le processus, de retirer les gens qui sont pas capables ou qui vont nuire à la gestion de crise, parce que je l'ai vu dans certains cas, on met de la pression, les gens vont focaliser sur un point très, très précis, mais qui, dans l'ensemble de la gestion de crise, soit inutile ou soit pas pertinent au moment où il est fait, puis là, ils vont juste faire ça, ils vont donc dévier l'ensemble des ressources à la mauvaise place. Mais c'est très important de savoir parce que quand tout va bien, les gens ont une personnalité, mais il y a comme une autre personnalité qui sort quand la crise embarque, puis là, on est dans un univers complètement différent, puis ça prend... Puis là, pour le gestionnaire de crise humaine, des certaines habiletés, puis dans ce cas-ci, dans le cas d'une simulation, d'un tabletop, la capacité des personnes qui mettent la chose, de lire les gens qui sont là pour être capable de voir les actions des gens et soit de mettre des mesures correctives ou de littéralement changer la personne de place parce qu'elle a créé un gâchis plus que d'aider la situation.
Oui, puis ça peut générer une crise dans une crise. Hein. Quelqu'un qui est complètement déstabilisé, là, qui vient à se prendre une crise de nerfs ou être agressif vis-à-vis des camarades. Je vois que tu rigoles, donc t'as vécu
oui,
ça.
Oui, j'ai des expériences, j'en ai vu des cas comme ça. J'ai eu, je me trouve, puis moi, dans mon cas, j'ai cette capacité-là de se calmer. Bon, d'ailleurs, on avait déjà enregistré une capsule sur ça. Et d'ailleurs, c'est un des sujets que je pense, c'est la préparation amène au calme. Faut rester calme, parce que si on reste pas calme, ça crée des problèmes. Puis dans ces situations-là, moi, j'ai un des skills, une de mes habiletés qui ressort en gestion de crise, c'est que je suis ultra calme. Puis ultra, ben, peut-être pas détendu, mais calme. Et je suis capable de voir les différents éléments, les différentes personnes agir et de les baliser correctement, même si c'est des gestionnaires, même si c'est des gens, puis des faire. Là, l'exemple que j'ai, puis je ne sais pas si la personne qui est visée va l'écouter, mais un moment donné, j'avais envoyé un gestionnaire prendre une marche. Je dis là, tu nuis à la situation. Va te détendre, va prendre une marche. Mm. Tu reviendras détendu. Nous, on continue à faire la gestion de crise, puis on va avancer le dossier. Fait que c'est en ce genre, puis là, c'est dans une crise réelle. Fait que là, c'était pas le bon moment d'avoir testé ce genre de choses-là. C'est pour ça que les simulations, tabletop, les simulations vont permettre d'avance de voir ces éléments-là. Et de savoir si votre gestionnaire de crise est capable de manœuvrer avec les choses que c'est comme l'exemple que j'ai à ce sens-là, c'est comme un bateau. C'est comme le capitaine du bateau, c'est le gestionnaire de crise. Bien là, faut que tu sais comment tes matelots vont se dérouler dans une tempête. Puis si tu le sais pas, bien c'est ça, entre le bateau qui coule ou le bateau qui reste à flot dans la tempête, ça a une importance. Donc, le capitaine doit connaître ses matelots avant la tempête, si possible.
Et ça, justement, ça fait un point que j'allais justement dire sur le fait que si on fait des exercices, c'est pas seulement, en effet, pour regarder le caractère de chacun, mais pour faire en sorte que l'équipe se connaisse bien, connaisse les réactions de chacun. Ce que tu dis est tout à fait juste sur le fait que tu parles de tes matelots, et c'est exactement ça. C'est plus tu vas connaître les personnes avec qui tu vas bosser dans un environnement de stress, et plus tu vas savoir comment les prendre, etc. Donc, deux volets, le fait de voir si la personne est capable de gérer dans une période de stress, et s'il n'est pas capable, dans ce cas-là, il faut le remplacer par son suppléant. C'est des choses qui se font très, très rapidement. Ça touche un peu l'ego de la personne, mais c'est correct. Il y a moyen de lui expliquer de façon très gentille et très agréable.
Oui, mais c'est pour ça que c'est mieux de le faire en simulation ou en tabletop que de le faire pendant la crise, parce que si on doit retourner un gestionnaire dans ses shorts pendant la gestion de crise, là, les égratignures sur l'ego sont beaucoup plus importantes et peuvent créer, comme tu mentionnes, une crise dans une crise, c'est qu'on doit gérer une crise d'ego pendant qu'on gère une crise réelle en plus.
Et ça, pour tester justement les personnes et puis la période de stress, nous, quand on fait des simulations de crise, on a des scénarios et puis on a des fiches, en fait, scénarios. Et en fonction des événements qu'on donne à telle personne, on peut lui indiquer, dans le cadre de cet événement-là, tu vas te mettre dans cette situation-là. Donc en colère, ou alors complètement tu pars dans un fou rire, ou alors tu pars en mode complètement silencieux, abattu, choc brutal, etc. Là. Voire tu tombes par terre, tu te trouves comme un bécane. C'est quoi l'expression au Québec? Quand on tombe par terre, les enfants, ils font du bacon, ils font le bacon.
Ah, le fameux bacon, ouais, la crise du bacon.
C'est ça. Donc, parfois, on indique à la personne, fait la crise du bacon. Et puis, il y en a qui jouent le jeu, il y en a d'autres qui sont un peu plus sur la retenue, etc. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que quand dans un scénario où on doit tester justement la cohésion d'équipe et pas seulement la résolution du problème, mais plus la cohésion, là, dans ce cadre-là, on va amener justement ce genre de choses-là où tu as une personne qui prend à partie une autre personne de façon brutale, agressive, et sans que les autres soient au courant. Et donc, c'est là où tu vas voir la dynamique justement par rapport à ce qui se passe. Et ça permet justement d'entraîner parce que des moments de tension dans l'équipe, c'est des choses qui arrivent très, 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 très couramment dans les cas de crise. Donc, plus on se connaît, mieux c'est. Plus on fait des exercices, mieux c'est. Et ça, dans ces exercices, quand on prend les exercices de table ou les simulations, généralement, on va tester un processus de déclenchement de crise, le comité récurrent et puis la clôture de crise. Et alors que quand on fait des exercices de table plus ciblés sur des événements, on peut jouer ça de façon beaucoup plus courte et le jouer plusieurs fois. Donc, les deux sont valables. Donc, maturité plus vers la simulation, on débute plus vers des exercices de table. Je prends mes notes parce que j'ai tout noté, quasiment presque tout en tout cas. Maintenant, quand on crée en fait un exercice, alors les exercices de table, il y en a plusieurs types. Il y a pour ce qui est le plan de reprise informatique, où là on va tester le matériel. Petite notion sur exercer versus tester. On exerce des personnes, on teste des processus. On ne teste surtout pas des personnes. D'accord ? Parce que quand on dit qu'on teste les personnes, vous avez une réception qui est assez moyenne. Les gens n'aiment pas être testés. Ils aiment être exercés, mais testés, pas du tout. Donc attention, au niveau du vocable, vous risquez d'avoir une certaine réticence quand vous faites vos exercices. Donc, on exerce les parties prenantes de la gestion de crise. Donc, on fait des exercices, des tests, surtout ce qui est plan de reprise informatique, où là, on va reconstruire les systèmes, alors un système, deux systèmes, trois systèmes, la totalité. On peut faire des bascules réelles en fonction de votre type de technologie ou de stratégie de plan de reprise informatique. Et là, on va basculer l'informatique du site A vers le site B. Donc, on est dans une phase de test de bascule. Et puis, on va faire des exercices de gestion de crise. Donc, on ne teste pas, mais on fait des exercices de gestion de crise. Par contre, on va tester les processus qui sont dans la gestion de crise. Donc, attention, test versus exercer, là, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on va faire aussi des exercices sur la gestion de crise, mais on va faire aussi des exercices dans le cadre du plan de continuité des affaires. C'est-à-dire que dans le cadre d'un plan de continuité des affaires, on a généralement deux scénarios qui sont importants. C'est soit la perte du bâtiment, donc votre bâtiment, on se trouve au personnel, il est passé en feu ou il y a une tentative de machin dedans, genre Anthrax qui fait en sorte que votre bâtiment est indisponible. Je vois que ça te fait rigoler, ça doit être
pareil. Oui, mais Anthrax, mais tu sais, je veux dire, en termes d'indisponibilité, la COVID était probablement un excellent test dans les dernières et que les gens en mémoire, l'Anthrax, c'est un cas plus rare. Disons, mais donc COVID, tu dis, OK, on a COVID, on ferme, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on a, en termes de continuité des affaires, on a vu à quel point les entreprises ont galéré, là, mais de façon là, monumentale. Parce que personne n'était prêt à ce genre de choses. Tout le monde s'était prêt à la H1N1. Tout le monde disait « Ah oui, je me suis préparé pour ça. » Bon, puis il n'y a rien eu à H1N1. Là, on arrive à COVID, puis là, il y a vraiment eu un arrêt complet. Et là, on a vu à quel point les gens qui se disent « Ouais, H1N1, non, on n'était pas prêt pour COVID. » Puis avec l'importance à laquelle les services ont été arrêtés. Et tout devenait indisponible techniquement là, à ce moment-là. Là.
Et là, c'est intéressant quand on fait justement un test comme ça, là où on vire tout le monde du bâtiment et puis tout le monde se trouve sur le trottoir. Ils n'ont rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc là, on est en train de faire un test par rapport à une évacuation d'un bâtiment. Et ensuite de ça, on va faire des simulations plus en termes de cyber. Et dans ce cas-là, on va jouer plus sur ce volet-là. Donc, quand on fait des tests comme ça, là, c'est aussi intéressant dans le cadre du plan de continuité de regarder... quand tes personnels sont sur le trottoir, que leur PC est dans le bâtiment et que tu leur dis maintenant rentrez chez vous et que les clés des voitures sont aussi dans le bâtiment, que potentiellement les sacs à main, les téléphones sont aussi dans le bâtiment, qu'est-ce que ça génère derrière? Donc ça aussi, c'est des tests qui sont très intéressants et on peut les faire de façon très facile quand on fait un exercice d'évacuation de bâtiment. On peut les cumuler. Donc tout ça, ça se planifie. Bon. Je reprends parce que je me perds. Donc, sur la création, en fait, ça, on voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Sur la création, en fait, de l'exercice, il y a une notion de réalisme. Alors, ce qu'il y a d'intéressant quand on est maître du jeu, quelque part, parce que créer, en fait, une simulation, faire des exercices de crise, surtout en cybercrise, c'est qu'en fait, on est le maître du jeu. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, dans les cybercrises, c'est que tout est réalisable au final. Même si techniquement, la chose qu'on demande, c'est pas encore fait, on se doute bien qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un de nos amis cyber-attaquants qui va finir par trouver la solution de foutre un beau bordel par rapport en fait à l'entreprise. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est maître du jeu, on peut faire un scénario qui n'est pas encore d'actualité. Et puis c'est marrant parce que dans beaucoup de scénarios que j'ai faits qui n'étaient pas d'actualité, quelques mois après, ils ont été d'actualité. Donc, on me surnomme le chat noir. Donc,
il ne faut pas passer en dessous d'une échelle avec un chat noir et casse un miroir, c'est pas bon. Là,
fait, non, pas du tout, c'est pas bon. Mais c'est ça qui était très, très rigolo, c'est que quand on a fait des simulations de crise, hein, généralement, on se rapproche de la réalité, on se base, quand on fait un scénario de crise, on se base sur ce qui se passe actuellement, etc. On a fait des scénarios de crise sur, justement, les liens, Internet qui passent dans l'Atlantique ou un peu partout ailleurs, avec une rupture de ces liens-là, qu'est-ce qui se passe? Donc actuellement, ça ne s'est pas encore passé, mais je vous l'annonce, tôt ou tard, ça finira par arriver. Donc, on a fait en fait un scénario par rapport à ça, et donc les gens nous disent « Ouais, mais non, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas arrivé, etc. » En fait, on s'en fout que ce soit réaliste ou pas. Ce qu'on va justement exercer, c'est les personnes du comité de crise face à un événement qui va vous faire un blackout dans votre informatique. Que ce soit une marmotte ou que ce soit en fait un requin blanc qui grignote le câble Internet, il n'empêche que ça fait une indisponibilité d'Internet. Oui.
Oui, de toute façon, ce qui est mesuré, c'est l'indisponibilité d'Internet. Le scénario ne rend ça que plus intéressant pour les humains qui y participent, là, parce que sinon, si on est très drab, indisponibilité, machin, ben là, c'est pas drôle, là, parce que le but des exercices, c'est faut que ça se rapproche du réel, donc il faut que ça soit intéressant et chose. On peut être en désaccord avec la nature du scénario en question, là, comme tu le mentionnes, mais dans l'ensemble, ça demeure quand même. Faut qu'on le rattache au réel, puis on a toute la liberté éditoriale d'inventer des crises. On peut parler d'invasion d'extraterrestres, on pourrait parler d'un paquet de choses qui peuvent être à la limite à la science-fiction, mais il faut que ça soit aussi, il faut qu'il y ait un petit côté intéressant humain là, dans tout ça, parce que dans le but, c'est les humains qu'on vient observer dans cet élément-là, comment ils agissent, comment ils choses, et comment ces humains-là exécutent les processus qu'on a mis en place, puis les différents éléments, puis si les processus sont inadéquats ou non, donc de les amener, d'amener ces éléments-là dans d'autres choses.
Mmh. Donc, pour les scénarios, en effet, donc les extraterrestres, j'ai encore jamais osé. Mais un jour ou un autre, je pense que je vais le oser. Et en fait, les scénarios, on se base beaucoup sur l'actualité actuellement. Et puis l'actualité, elle est vachement riche hein, entre l'Ukraine et puis la Russie, et puis le Hamas et Israël, avec les Houthis, avec l'Iran, avec la Corée du Sud et la Corée du Nord, le Japon et tout ça, et la Chine. Enfin, pas le Japon et la Chine, mais la Taïwan et... Taïwan, ça? Oui, Taïwan et puis la Chine.
Taïwan et la Chine, oui.
On a plein de scénarios qui peuvent justement servir de base. Donc, on fait beaucoup de scénarios avec Lazarus en ce moment, qui est aussi intéressant puisqu'ils ont plein de ramifications, donc c'est cool. Donc, on peut vraiment jouer en fait avec des scénarios. Donc, plus on est quand même proche de l'actualité, plus ça permet aux gens de s'intégrer dedans.
Et je vais arracher une petite parenthèse sur ce genre de choses-là. Les séries télé aussi peuvent être un contexte de réalité qu'on peut utiliser. Il y a une série actuellement sur moi, ce que j'ai commencé à écouter, puis je prends que ça va bien le vieillir. Mais c'est sur Apple TV, c'est For All Mankind. C'est-à-dire, c'est une série qui prend sur la base que les Américains n'ont pas gagné la course à la Lune. Ah, et oui. À ce moment-là, ça a comme effet. Fait qu'ils partent dans un scénario hypothétique de qu'est-ce que ça a comme conséquence que les Américains n'aient pas gagné la course pour différentes raisons et amènent ça là-dedans. Fait que c'est très intéressant parce que en termes d'imagination d'un scénario de crise, cela est un bel exemple d'une série alternative dans laquelle on est, puis toutes les conséquences, puis je commence la série, très au début, à quel point ils poussent l'enveloppe, c'est-à-dire ils vont loin dans la chose, parce que d'où je suis rendu dans la série à ce moment-ci, c'est le deuxième alunissage, c'est une femme. Et donc, la conséquence qu'une femme atterrisse sur la Lune des années 70 par les Russes va avoir des ramifications. J'ai hâte de voir la suite, comment ça va changer, mais ça va changer le regard qu'on a sur les choses. Donc, ces simulations-là, puis inspirez-vous des séries, inspirez-vous des choses, de choses-là, parce qu'il y a beaucoup à aller chercher dans ces éléments créatifs-là qui sont très intéressants et qui amènent justement aux personnes qui vont vivre votre simulation ou votre exercice de table avec beaucoup plus d'enthousiasme aussi. Là. C'est ça aussi là, qui est l'intéressant. Puis quand tu dis qu'il faut que la personne joue un rôle d'être fâchée, bien, c'est plus facile de jouer un rôle fâché quand le volet imagination est plus en place, parce que sinon les gens vont penser que c'est eux, parce que bref, c'est retirer l'élément direct, mais de vraiment les amener dans un contexte imaginé.
Et ça, c'est important ce que tu dis hein, sur le contexte imaginé, etc. Là, oui, il faut vraiment qu'ils s'imprègnent en fait du scénario. C'est pour ça que plus le scénario va être proche de la réalité ou de l'événement qui se passe, plus ils peuvent en fait s'associer en fait à l'événement. Et en plus, quand on fait le scénario, on amène des pièces. Généralement, on a à peu près 15 minutes d'immersion. Et dans ces 15 minutes, on a des éléments qui sont réels. Donc, on crée des fausses coupures de presse, on crée des faux Twitter, on crée des fausses vidéos. Pour un des clients, on a fait des vidéos de journalistes où justement, on parlait de la société avec la société en fond d'écran, machin, etc. Donc pareil, on peut aller jusqu'à faire des interviews de personnel de la société. C'est des choses aussi que l'on a. Donc par rapport à ça, c'est vraiment cool. Plus on va être proche de la réalité, plus on va faire des pièces qui intègrent la personne, plus les personnes vont s'intégrer dedans. Donc, plus on utilise les vrais noms des personnes, etc., plus ça va aller dedans. On peut aussi faire des enfin bon, je m'embarque, je suis en train de partir sur, oh là là.
Oui, mais c'est tout le plaisant de faire ces exercices-là, oui. Puis justement de les organiser et de les exécuter, parce qu'on est capable, dans un monde un peu plus fictif, puis on a un peu plus de liberté dans ces contextes-là, qui laisse justement à explorer des choses qui peuvent être très intéressantes pour l'organisation, pour pousser ces éléments de gestion de crise un peu plus loin. Puis au-delà de ça, ça va rapprocher l'équipe, ça va, tu sais, il y a des effets humains aussi organisés qui sont très intéressants qui émanent de ça. Fait que, non, c'est moi, j'adore ce pouvoir. M'amuser un peu dans ces univers-là. Ouais,
et pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait des wargames, des jeux comme ça, là, vous devez savoir quel est le trip qu'on se prend. Ensuite de ça, les objectifs, il faut quand même être sérieux un minimum. Il y a un moment ou un autre, on ne peut pas non plus faire que du Pinocchio tout le long. Donc, il faut quand même connaître les objectifs que l'on veut. Plus on va regarder un petit peu ce que l'on veut accomplir, ce que l'on veut tester ou exercer, il va falloir quand même qu'on aille dans ce sens-là, qu'on cadre un petit peu c'est quoi l'objectif en fait de la simulation de crise. Donc parfois on a des objectifs qui vont être, on met sous pression en fait le comité pour vérifier comment est-ce que ça agit en période vraiment de stress. Et puis, croyez-moi, là, on y met les moyens, on se fait réellement plaisir. Bon, de toute façon, on a carte verte, donc les gens peuvent se crier dessus, on a carte verte généralement du PDG. Quand même rester dans une certaine limite. Parfois, on fait justement un des exercices, le directeur de la gestion de crise, pouf, il s'est pris en fait une crise cardiaque, puis voilà, lui il s'est arrêté là, donc il a simulé en fait un arrêt cardiaque, il faisait le bacon par terre, etc. Là. Donc ça a déstabilisé tout le monde, c'était l'objectif, c'est ok, comment est-ce qu'on fait quand on a en fait le président qui vient nous lâcher d'un seul coup de façon très brutale, et puis qui prend le lead derrière, parce qu'on a l'aspect choc de voir en fait quelqu'un prendre un malaise, versus ensuite de ça, il faut continuer la crise. Donc ça, il faut vraiment déterminer les objectifs. Ensuite de ça, on a une notion de qui va être dans l'équipe qui va préparer la simulation, parce que ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut qu'on ait des agents secrets qui sont dans les différents services pour récolter en fait, l'information la plus vraie possible. Par exemple, chez un de nos clients, on travaillait sur des scénarios en cyber, hein, et puis on est allé voir en fait, la personne RH, enfin, il y avait une personne RH autour, et puis on lui a dit, qu'est-ce qui pourrait foutre la merde chez toi ? Bon, elle m'a dit, oh, nous, on a les dossiers médicaux, ils sont en clair. Si on se fait voler ça, ça risque d'être gênant, surtout que les personnes ont une certaine autorité. Ah bon, parfait. Donc, on a fait en fait une fausse pièce. Donc ça, là-dedans, par rapport à ça, il est important de savoir qui va faire partie de l'équipe qui va construire ce scénario-là, parce qu'il n'y a pas juste Fournier dans son coin qui fait ça, mais non, c'est toute une équipe, des TI, des RH, des finances, des gens comme ça, qui vont justement intégrer ce scénario-là et puis qui va le rendre beaucoup plus réaliste et beaucoup plus près du terrain. Quand je parlais du document, justement, de la déclaration de maladie, là, c'est une déclaration de maladie, comment est-ce que ça s'appelle trop, et ben, c'était vraiment une vraie déclaration sur laquelle on a masqué, bien évidemment, le nom, etc. On a mis le nom d'une autre personne. Et puis, on a dématérialisé, enfin, on a enlevé, en fait, ce qui permettait d'identifier la personne réelle. Ensuite de ça, il va y avoir les participants. Donc, en fonction du scénario, si c'est un scénario de cyberattaque, hein, c'est clair qu'on va avoir une personne des TI, une personne de cybersécurité, ce genre de choses-là. Si c'est un scénario où c'est un avion qui vient de s'écrouler, là, les personnes de cybersécurité et puis de TI, on n'en a peut-être pas forcément besoin, mais on va avoir besoin peut-être d'autres personnes. Donc, en fonction du scénario, le tour de table des joueurs, cette fois-ci, ne va pas être forcément le même. Donc attention, il va falloir déterminer par rapport au scénario qui c'est qu'on va avoir autour de la réalisme de la mise en scène. Par rapport à ça, bon, on l'indiquait tout à l'heure, hein, vraiment les pièces que l'on donne, c'est des pièces qui sont réelles. D'ailleurs, petite anecdote, chez un des clients, on a fait une pièce tellement réelle avant l'exercice que cette pièce a fuité et ça a généré une crise. Donc, donc c'est très très con. Donc maintenant, sur toutes les pièces, dans toutes les pièces à Estéry, je me suis fait tirer l'oreille à peu près, mais bon. Vous le voyez pas, mais en fait, il y a Nicolas qui est...
Oh non, mais là, je m'en aurais, mais c'est parce que d'expérience, on a toujours des histoires de guerre comme ça, puis ça me rappelle certaines histoires de mes histoires de guerre aussi, qu'on a échappé une affaire, puis là, ça a généré une crise qui ne devait pas générer une crise. En tout cas, bref, oui.
Ce qui est très rigolo, c'est que la personne qui a généré la crise était responsable qu'il y avait un exercice de crise qu'on est en train de préparer, qu'on était en train de préparer. Mais bon, elle n'était pas, en fait, dans le groupe de création. Bref, enfin bon, tout ça, donc du coup, maintenant, dans toutes les pièces que l'on met, on marque, ceci est une pièce d'exercice. Parce que bon, elles sont tellement réalistes, en fait, aux pièces que ça pose parfois un problème. Donc là-dedans, il faut être vraiment réaliste. Donc si on a des revues de presse, il faut que ce soit des revues de presse identiques à ce que vous avez dans votre entreprise. Si c'est des courriels, hein, c'est des courriels identiques, à la formalisme identique, en fait, à votre entreprise, avec la vraie signature, etc. Quand c'est des coupures de presse, là, on crée carrément des articles de presse avec le vrai logo de la revue de presse. Bien évidemment, on précise comme quoi ce n'est pas un réel article. Et dans ces articles, dans ces pièces pour Twitter, tous ces trucs-là, eh ben, on met des choses qui sont excessivement réalistes et qui font référence justement au scénario pour lequel on peut. Donc, réalisme des pièces, ça aussi, ça permet justement tout au long en fait, de l'exercice d'intégrer les personnes de plus en plus dedans. Et plus la pièce est proche de la réalité de la personne qui va devoir intervenir, je parlais de la RH par exemple, ça peut la décontenancer parce que c'est une pièce qui lui arrive, qui est vraiment excessivement réelle et elle n'est pas forcément au courant du contenu. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Les scénarios variables, par rapport à ça, en fait, on a un scénario de base, mais en fait, on peut générer des scénarios de tiroir en fonction, en fait, des décisions qui sont prises. Donc, c'est là, quand on prépare un jeu, comme un jeu de rôle, ben, on va avoir le gars qui va prendre le chemin de droite ou alors le chemin de gauche et qui va se retrouver face à un golem ou face à autre chose. Donc, on a exactement le même principe. En fonction des décisions qui sont prises, ben, le scénario va changer. Donc, tout ça, là, c'est pour préparer l'exercice. Et en effet, c'est toute une phase. C'est pour ça que ça peut prendre plus de 100 heures à préparer ce genre de choses-là, surtout quand on rentre dans des aspects vidéo où on va faire des interviews, etc. Ça peut prendre énormément de temps. Donc, plus on est réaliste, plus on sait les objectifs, plus on sait les personnes qui sont autour, plus votre exercice va être correct. Pareil, sur la durée de l'exercice, il va falloir se déterminer. Là, sur un client, on fait deux fois 3 heures sur 2 jours différents. Donc, il y a un séquencement qui se fait. Parfois, c'est plutôt juste 3 heures et parfois, c'est des journées complètes. Une autre chose qui est intéressante dans les scénarios, c'est que quand on commence, en fait, dans les simulations, quand on commence, on est un petit peu débutant, ben, on va le faire en journée. Et puis, quand on commence à avoir une certaine maturité, bah, ça peut être cool de le faire, par exemple, à 23h59, le 31 décembre. On n'aura pas exactement le même réalisme.
Ouais, ben, j'avais participé à le passage à l'an 2000 et c'est ce genre de choses. C'était pas une crise inattendue ou une simulation, mais là, on était vraiment mis dans une situation. On a passé le jour de l'an, passage à l'année dans des bureaux à aller surveiller si ça allait tout, c'est, le monde allait s'écrouler, il n'y a rien qui s'est écroulé, tout était beau, on a continué notre vie, mais c'est un exemple d'éléments comme ça au hasard. Puis si on le prend d'un point de vue pur cyber, les groupes malveillants les plus importants généralement vont viser genre le vendredi à 16h22, juste pour gâcher le week-end ou Log4j, c'était juste avant le temps des fêtes, fait qu'ils sont très comme ça aussi, fait qu'il faut que la crise soit suffisamment réaliste pour être capable d'aller chercher cette irritation-là que ça va créer chez l'humain. Puis ça change la façon que les humains, on le parlait avec le stress. L'irritation, parce qu'on vient d'être bousculé dans notre vie personnelle par une crise, ça vient changer la façon qu'on aborde les choses de façon assez importante aussi.
Et ça, je vais rebondir sur ce que tu dis, hein, sur les exercices que j'ai pu faire, les exercices qui sont en journée où on commence gentiment, tu sais, en 8h30, tout le monde a pris son petit-déj, machin, et puis on va aller jusqu'à midi, vers la bouffe. Là, ça reste toujours gentillette, il y a beaucoup de bonne humeur. Ah, bah tiens, vas-y. Et puis, par contre, quand on appelle les gens à 2h du matin, là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens sont fatigués, ils sont aigris, et ça change totalement, en fait, la dynamique. Ils n'ont plus envie de jouer, ça les fait chier, en fait. Et en fait, une crise dans la réalité, ça fait chier. Donc, quand on va les chercher, justement, à 2h du matin, ce qu'on va chercher, c'est cet aspect-là. vous, ça vous emmerde d'être le matin en pyjama sur, comment ça s'appelle, Team, pour gérer une crise, alors que vous étiez bien sous la côte.
Ouais, ben c'est déjà bien maintenant. On est ça, si on fait ça sur Teams, pré-confinement, ça se faisait pas sur Teams. On devait s'habiller et aller sur site, aller faire les affaires et se mettre dans la salle de crise. Ça, c'est un qui est un peu mieux maintenant. Mais puis pour avoir géré quelques crises virtuelles, ça a des avantages de le faire comme ça. Puis bon, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Mais de devoir se réveiller à 2h du matin, de devoir s'habiller, aller au bureau, aller rencontrer les autres collègues qui sont aussi dans un état probablement lamentable, fâché, généralement en plus. Ça, là, t'as pas besoin de mettre des cartes avec soit fâché. Là, les gens sont de façon authentique et réelle, ne sont pas contents d'être là.
Donc ça aussi, c'est à côté. Donc plus on va être mature, plus ce genre de choses-là, vous pouvez le faire. Si vous commencez un premier exercice à 23h59 le 31 décembre, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Ok, ensuite de ça, bon, donc on a vu à peu près comment est-ce qu'on construisait, etc. Et puis bien évidemment, il y a des pièces qui vont accompagner la simulation, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Donc, on va faire un scénario détaillé. Par rapport à ça, nous, de la façon dont on pratique, on va dessiner en fait le scénario. Donc, on va prendre un chronogramme, on va faire un chronogramme. Ça peut être un chronogramme sur plusieurs jours, ça peut être un chronogramme sur quelques heures, etc. Et on va mettre dedans comment est-ce qu'on va commencer les choses, quelles sont les pièces qui vont arriver, quels sont les événements qui vont arriver, qu'est-ce qu'on attend de la gestion de crise, est-ce qu'elle s'active en mode alerte, est-ce qu'elle s'active en mode crise, quelles sont les pièces qui vont justement faire basculer d'un mode à un autre, etc. Donc tout ça, en fait, on va le dessiner, on regarde la cohérence de tout ça, et puis une fois qu'on l'a bien dessiné, eh ben, on va en écrire un scénario plus mode linéaire qu'on va généralement mettre sous Excel pour, une fois qu'on exécute en fait le scénario, on passe par toutes les étapes et là-dedans, on a des choses qui vont nous dire ben, s'ils choisissent telle chose, on va sur tel chemin, s'ils choisissent telle autre chose, on va sur tel autre chemin. Une autre chose en termes de pièces, c'est vraiment les rôles et responsabilités de chacun là. Qui doit faire quoi, comment, etc. Donc ça aussi, on va le décrire. On va aussi déterminer par rapport aux différentes pièces et intervenants, les observateurs, les évaluateurs. Par rapport à ça, là, dans une simulation de crise, il va y avoir des acteurs qui vont jouer la crise, qui vont jouer leur rôle dans le comité de crise. Et puis, il va y avoir des personnes qui n'auront pas grand-chose à faire. Et puis, eux, ils vont devenir tout simplement des observateurs. Donc, par rapport à ça, on va leur fournir un kit qui va dire, ben voilà, tu observes les interactions de chacun, note telle chose qui serait peut-être intéressante de faire évoluer, tel comportement, etc. Donc, par rapport à ça, ça peut être aussi intéressant d'avoir, bien évidemment, les observateurs, les évaluateurs. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans une gestion de crise, dans un comité de crise, tout le monde n'aura pas forcément à intervenir. Donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on donne des rôles à des personnes qui n'interviennent pas forcément. Chez un client, on avait une notion de scribe. Donc, c'est normalement la personne qui note tout ce qui se passe, etc. Et en fait, cette personne n'était pas mobilisée. Donc, lors d'une vraie crise, en fait, cette personne n'était pas présente. Donc, il ne restait que des directeurs autour de la table. Et généralement, dans une crise, on va convoquer tous les directeurs, qu'ils soient utiles ou qu'ils ne soient pas utiles. Dans ce cadre-là, en fait, le directeur qui n'était pas vraiment concerné par la crise, il est devenu scribe. Donc ça aussi, c'est des choses, c'est-à-dire que le tour de table, en fonction de l'événement qu'il va y avoir, vous allez avoir des personnes qui vont être moins chargées que d'autres. Donc on peut charger les personnes, les directeurs, qui sont moins chargés pour aller chercher des bonbons, des sucreries, du café, ce genre de trucs-là, s'occuper de la logistique, d'autres pour faire le scribe, etc. Donc, observateur, évaluateur. Et puis, autres personnes qui vont intervenir. Puis, bien évidemment, il va y avoir, donc, à la fin de l'exercice, une notion de retour à chaud, donc un retour d'expérience à chaud. Donc, on a fait 3 heures d'exercice. Les gens, en fonction du degré de complexité, sont plus ou moins agacés. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de quitter. Mais ils vont rester encore un petit quart d'heure parce que chacun, on va leur demander, comment est-ce que tu as trouvé l'exercice? Qu'est-ce qui serait améliorable? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Donc, on a 3 questions et puis on demande à chacun d'intervenir en fait sur ces 3 questions-là pour justement, à chaud, et c'est l'idée en fait du retour à chaud, savoir qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils feraient différemment. Ils viennent de vivre l'exercice, ils ont une certaine tension avec eux. Et donc, c'est ça qu'on va chercher, c'est le côté plus intuitif, plus ras-le-bol, et on va chercher donc ça. Et après, bien évidemment, on aura un rapport, un retour d'expérience à froid qui se fait généralement une ou deux semaines après, où là, on a plus une dizaine de questions et on va aller plus sur la technicité, sur ce genre de choses. Donc, ça donne pas mal ça au niveau de la simulation. Donc, c'est du plaisir. C'est du plaisir en barre, aussi bien pour les personnes qui le préparent que pour les personnes qui le vivent. Et très souvent, quand vous avez une simulation qui est bien faite, ce qui en ressort, c'est que les personnes vous disent « Ok, quand est-ce qu'on fait la prochaine ?» Et là, tu peux dire « Ouais, youpi, bravo, j'ai bien bossé, là, ils ont envie d'en refaire une autre, tant mieux. » S'ils ne vous disent pas ça et puis disent « Qu'est-ce que c'était pénible ?» va falloir réadapter votre scénario pour le rendre peut-être un peu plus léger vis-à-vis en fait du panel de personnes que vous aviez autour de la table.
Ouais, donc, c'est voilà, ce que je mentionnais un peu, l'aspect fictif, s'inspirer de l'actualité, c'est une chose, s'inspirer de séries de fiction qui demeurent quand même un minimum crédible par rapport au scénario utilisé, amener ces éléments-là parce que les gens vont basculer davantage, puis il faut que ça soit plaisant. Puis si c'est plaisant, si on n'est pas, c'est sûr que se faire réveiller à 2 heures du matin, c'est pas plaisant, mais si l'exercice lui-même est bien fait, ne rajoute pas une couche d'irritant supplémentaire qui n'existe pas dans une vraie crise d'ailleurs, là c'est intéressant parce que là ça va jouer tout le fait de rapprocher les équipes, de rapprocher les gens, de mieux se connaître ensemble. Puis la retour d'expérience à chaud aussi est important pour prendre ça, justement pour être capable de ramener un contexte. Donc, je ne serais pas le premier à dire « Oui, je recommence une crise à 2 heures du matin », mais recommencer la simulation dans un contexte varié, oui. Il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit bien monté, il faut que ça soit une belle histoire.
Je vais rebondir sur ça, sur le fait que oui, en effet, il faut que ce soit plaisant pour les gens. Parce que si ce n'est pas plaisant, là, c'est clair qu'on n'a pas d'adhésion. Il y a une autre chose, c'est la notion de rythme. Au tout début, tu parlais justement, et puis je vais boucler avec ce que tu disais au début, là, l'importance en fait de s'entraîner. Plus on s'entraîne et plus en fait on a une cohésion d'équipe, on a un mode de fonctionnement qui fonctionne bien, on connaît les procédures sur les bouts des doigts, etc. Et en fait, en termes de simulation, là, ce qui est intéressant de faire, c'est à peu près une simulation par mois ou un exercice par mois avec les personnes. Parce que ça va leur permettre vraiment en fait d'interagir avec eux. Et on n'a pas besoin de faire des exercices qui durent 3 heures. Un exercice qui dure 1 heure, hein, c'est amplement suffisant, c'est même parfois plus efficace qu'une simulation de 3 ou 6 heures.
Donc voilà. Oui, tout à fait. Puis ouais, ça, c'est intéressant parce que nous, on parle dans un univers non standard, parce que les corps organisés comme la police, les pompiers, l'armée, c'est ça, eux, n'en font, eux, le principal travail, c'est de travailler en simulation constamment pour s'entraîner. Puis c'est ça qui est important parce que ça devient un réflexe. Justement, ils s'entraînent énormément comme les sportifs de haut niveau. C'est d'imprimer le mouvement pour les sportifs dans leur tête. Et qu'une fois que tu l'as imprimé, mais la même chose dans la gestion de crise, quand tu as imprimé les processus, quand on arrive dans une vraie gestion de crise, une fois que le processus était imprimé, ben, il est automatique, il devient rapide, il devient efficace et il devient sans émotion.
Ouais.
Et ça, c'est important parce qu'en gestion de crise, quand on laisse l'émotion prendre la place, on en a parlé un peu, genre si quelqu'un se fâche, mauvaise, ça vient ralentir de façon très importante. Dans une crise, dans un monde réel, on peut tolérer une certaine latence. Dans un monde cyber à l'heure actuelle, les minutes qu'on perd à ce genre de gérer à l'ego de l'humain, les émotions comme ça, peut changer d'une crise réussie, une gestion de crise réussie à une gestion d'un échec complet, puisque les attaquants sont très rapides maintenant. On n'a plus d'espace à ce genre de choses-là. Fait qu'il faut s'entraîner comme ça, puis reprendre comme les corps organisés font. Les pompiers sont probablement l'exemple civil le plus connu, puisque eux vont s'entraîner à rentrer dans des édifices en feu, vont s'entraîner à rentrer dans des contextes comme ça constamment, pour justement être capable d'affronter des situations nouvelles. Puis c'est ça aussi, la gestion, la simulation sert à nous amener dans des situations nouvelles. Donc oui, la répétition est très importante, comme n'importe quel sportif de haut niveau, comme n'importe quel corps organisé qui montre à quel point vont être capables de gérer une crise décemment, dans leur travail, c'est de récupérer cette approche-là qui est largement utilisée dans d'autres corps de métier.
Je vais terminer par ça, là. Je vais rebondir sur ce que tu dis, sur le fait que, en effet, il y a des personnes, c'est leur boulot de s'entraîner en permanence, les pompiers, etc. faut pas oublier en fait qu'un comité de crise dans une entreprise, leur boulot primaire, là, c'est pas de gérer les crises, c'est de gérer l'entreprise, même s'il peut y avoir des événements, etc., dans l'entreprise. Mais une crise, on est bien au-delà des événements récurrents. Donc, ils n'ont pas l'habitude, en fait. Ce n'est pas leur boulot. Donc, ce qui fait qu'ils ne savent pas gérer les crises. Et la seule façon dont ils vont savoir gérer les crises, c'est de faire des exercices de façon vraiment récurrente pour ce que tu disais, atteindre, en fait, un niveau de réflexe, de facilité par rapport à ça. Il y avait une autre chose que je voulais dire, mais bon, on pourrait dire telle chose. Moi, j'arrête là parce que sinon, ça va durer encore.
C'est parfait. On a toujours des conversations très intéressantes sur lesquelles on rebondit sur un panel de petits sujets. Merci énormément. Très intéressant. J'aime beaucoup ces sujets-là, plus que ça. J'ai beaucoup de. Ben, beaucoup. J'ai un certain véhicule là-dedans qui me permet justement de rebondir puis d'amener un peu plus loin la conversation sur ce genre de choses-là. Merci.
Merci.